7h38 minutes. C'est mon humeur du matin. Je suis de bonne humeur. Non, je suis vraiment de bonne humeur. Je suis content. Je suis heureux. Parce que Rochelette était bon ce matin encore. Parce que M. Fergus, il était bon tantôt à radio. Non, mais il a tenu son bout, puis c'est correct. Puis je suis de bonne humeur, Carl Bélanger, ton studio.
Ah, ben c'est gentil.
Comment ça va?
En pleine forme.
Bon.
On se remet. Écoute, j'ai passé la journée enfermée hier.
Puis?
Avec les collègues de Cogeco, on lisait le budget. 582 pages de bonbons.
Ouais, c'est de même ça se passe. Hein. Vous faites la lecture, vous analysez ça, on vous explique certaines choses également.
Oui, on est enfermé, là, on n'a plus de communication avec le monde extérieur. La loi ne permet pas ça, qu'on puisse communiquer les détails du budget avant que le budget soit déposé à la Chambre des communes.
Ouais.
Ça s'est fait hier vers 16h. Donc, on est enfermé et on est entouré de fonctionnaires du ministère des Finances et d'employés politiques du ministère des Finances. Et qui peuvent répondre à nos questions, et des fois, ça répond plus clairement que d'autres. Parce que, écoute, dans le budget d'hier, il y a beaucoup de détails qui demeurent à préciser sur comment ces programmes-là vont être mis en place. Et ça, c'est pour une raison très simple. Il y a une élection qui s'en vient, donc on se garde des munitions pour pouvoir faire des annonces. Si tout est dans le budget, on ne peut pas réannoncer. Là, ça prend des... On va voir les ministres qui vont se promener au cours des prochains mois.
Fait que là, on dit on a les provisions budgétaires.
Voilà.
Puis au cours des prochains mois en campagne électorale, on va prendre l'argent qu'on a dégagé pour ça, puis on va nous annoncer plein de projets.
Et voici les modalités, voici comment on peut être éligible au programme, voici qui ça va affecter. Donc, on va détailler tout ça pour pouvoir faire la promotion de ce budget-là.
Bonne stratégie ou pas une bonne stratégie de la part des libéraux, d'après toi?
Mais écoute, c'est une stratégie qui a fonctionné dans le passé. Hein. Dans ce cas-ci, on refait la même chose qu'on a fait en 2015, c'est-à-dire qu'on cible la classe moyenne. Le budget s'intitule « Investir dans la classe moyenne » et le ministre Bill Morneau, hier dans son discours, a mentionné les mots « classe moyenne » à 15 reprises.
Wow.
Donc « classe moyenne » et au cas où vous n'avez pas compris, « classe moyenne ». Alors c'est ce qu'on fait et il y a beaucoup évidemment de saupoudrage de bonbons un peu partout, mais il y a deux groupes démographiques qui sont ciblés particulièrement. D'un côté, les milléniaux, les jeunes familles. On est des programmes qui ciblent cette démographie-là qui a voté libéral en mars la dernière fois. C'est la démographie qui a permis au Parti libéral de l'emporter. Et les retraités, les gens âgés, qui, eux, ont tendance à voter plus que les autres groupes démographiques et donc qui sont clés dans toute élection.
OK. Donc, c'est une bonne stratégie si on considère qu'ils sont frappés par un scandale actuellement, une controverse importante, celle de SNC-Lavalin, l'indice de popularité du premier ministre en a pris pour son rhume, son leadership là-dedans. On présente un budget, je veux pas dire que c'est un budget électoral, mais c'est un budget préélectoral.
Oui, certainement.
Qu'on le veuille ou non, c'est pas le budget du gouvernement du Canada hier, je pense, c'est le budget du Parti libéral au pouvoir.
Non, disons que si ça avait été un budget préparé par des fonctionnaires, on n'aurait pas eu droit à la même recette. Là. C'est vraiment un budget qui vise les élections et donc, on essaie de répéter le modèle qui nous a permis de l'emporter et qui nous faisait mener dans les sondages jusqu'à l'affaire SNC-Lavalin qui là, a mis un peu les libéraux dans le trouble. Évidemment, le budget était préparé d'avance. Là. Ça n'a pas été écrit la semaine passée. Ça fait des mois que c'est en préparation parce qu'évidemment, il y a des calculs compliqués. Il y a des amendements aux lois fiscales qui doivent être apportés et il faut que tout ça... On ne peut pas dire que tout ça s'équilibre, là, mais il faut que les chiffres fonctionnent à un moment donné, parce qu'évidemment...
Ça ne fonctionne pas toujours, mais on dit que ça fonctionne.
C'est ça, on dit que ça fonctionne, il faut que ça fasse du sens, mais on est toujours en déficit, et ça, c'est un point important. On avait promis que cette année serait l'année du déficit zéro, et là, on est en déficit. Là, on va ajouter, en incluant l'année en cours, 91 milliards à la dette en déficit accumulé jusqu'en 2024.
Incroyable. Là, on a un genre de débat régional sur le transport. Moi, j'avais hâte d'entendre le budget parce que le maire de Gatineau, lui, avait dit une fois que Québec réclamait de l'argent, qu'on pense à l'aller au complet à Montréal dans le budget, Maxime Pedneau-Jobin, le maire de Gatineau, lui, évidemment, espérait avoir des provisions pour la fameuse histoire du train dans l'ouest de la ville. À moins que je me trompe, là, on n'a toujours pas vu l'étude finale sur la faisabilité de ce train-là là, à Gatineau. On attend toujours, mais on sait que le maire, lui, est plus en mode train qu'en mode pont. ou autre solution. Le maire d'Ottawa, lui non plus. Lui, un pont, il voit pas ça. Qu'est-ce qui est dans le budget là, qui est concret, puis qui est vrai, puis qui est pas vrai dans tout le fond de cette histoire-là?
Dans le budget, ce qu'on a, c'est un plan pour étudier la mise en place d'un nouveau pont. Il y a aussi le plan pour défaire ou déconstruire le pont Alexandra. Mais il n'y a pas d'argent sonnant pour construire un nouveau pont. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour les études qui ont déjà été faites pour voir est-ce que c'est faisable. Et là, c'est un engagement, disons, mi-figue, mi-raisin, parce que c'est pas concret. On va faire un plan pour étudier quelque chose peut-être dans plusieurs années. Attendez-vous pas à ce que les chantiers se mettent en branle rapidement. Là. Ça va prendre un certain temps.
Mais c'est drôle, Carl. Moi, je fais juste y aller d'une petite logique. Je suis pas politicien, moi, là. Mais il me semble que ça aurait été logique, si on est pour démolir un pont, d'en construire un autre avant de démolir celui-là. Il me semble que là, on va amputer la région pendant 2 ans, 3 ans d'un pont. Déjà qui, aux yeux de bien des gens, il en manque un. Là, on en démolit un, puis on va vivre à 4 ponts.
Exact. Et l'engagement du gouvernement libéral dans le budget est plutôt clair. Ils disent qu'ils vont remplacer le pont Alexandra, d'une part. Ils disent qu'ils vont répondre aux besoins démontrés d'un point de passage supplémentaire dans la région. À ce niveau-là, l'engagement du gouvernement libéral est très clair. Il n'y a pas de train qui est mentionné, ce n'est pas partie des priorités. Cependant, il y a un programme qui a été mis en place par le gouvernement pour les infrastructures municipales.
Oui.
On prend l'argent de la taxe sur l'essence, puis oui. On envoie ça aux villes pour leurs projets.
Si je me souviens, c'est 2,2 milliards.
Exact.
Puis la part de Gatineau derrière tout ça, ça va être quoi? Autour de 16 millions.
Si c'est divisé équitablement, évidemment, on va répondre aux projets. Et là, le gouvernement fédéral tente de passer par-dessus la tête des provinces. Au Québec, ça va être plus difficile à cause des ententes et de la gestion de la taxe sur l'essence.
Oui.
Dans les autres provinces, ça pourrait être plus facile. Quels sont les projets qui seront identifiés par les municipalités? Bien là, c'est là où on va avoir un problème ou un manque de cohésion avec la vision qui a été démontrée hier dans le budget libéral.
OK. Donc, Alexandra va être démolie. On va reconstruire Alexandra. Puis là, on ramène les études de la CCN sur un 6e lien. Ça veut dire quoi, ça, un 6e lien? Ça peut être un tunnel, un pont... je sais pas, autre chose, je cherche.
Ben, ça peut être un peu n'importe quoi dans ces eaux-là. Les gens ont tendance à penser pont. Est-ce que ça pourrait être un tunnel? Possiblement, mais là, ça coûte plus cher habituellement. Mais je doute fortement que le gouvernement fédéral considère établir un service de traversier. Là. Ça n'arrivera pas.
OK. À part ça, dans le budget pour la région, qu'est-ce que tu vois de bon derrière ce budget-là?
Bien, je sais que les fonctionnaires fédéraux, il y en a beaucoup dans la région, s'attendaient à avoir des réponses au niveau du système de paix Phoenix.
Ouais.
Le gouvernement a déjà investi 1 milliard dans ce logiciel-là pour tenter de régler le problème. Là, on investit un autre demi-milliard de dollars.
560 quelques millions, je pense.
Exactement. Là. Est-ce que ça va régler le problème? Je ne sais pas, mais pour l'instant, on envoie de l'argent là-dedans, puis les problèmes de la paix, ça touche encore beaucoup de fonctionnaires et on ne semble pas pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on va mettre en place un nouveau système finalement? On en parle, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat concret.
Alors, il y a encore du mécontentement de ce côté-là. La chose que tu as le plus appréciée peut-être, l'élément que tu as le plus apprécié, toi, Carl, dans ce budget-là?
Écoute, c'est un budget qui... Il y a beaucoup de mesures intéressantes. Celle que je trouve la plus novatrice... C'est la volonté du gouvernement d'aider les familles à acquérir une première maison en, finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter jusqu'à 10 % de votre propriété. Et ils vont demeurer propriétaires donc ils font partie, vont payer l'hypothèque à votre place jusqu'à concurrence de 10 %. Donc, ça va faire baisser vos paiements. La pogne, c'est que ça veut dire qu'ils ont 10 % de votre maison. Alors, comment on va récupérer cet argent-là? Est-ce que ça se fera à la vente? Possiblement. Et est-ce que ce 10 % demeurera stable?
Alors, c'est pas une subvention,
c'est
là.
C'est pas une subvention. On achète 10 % jusqu'à 10 % de votre maison. Donc, si votre maison vaut 400 000, le gouvernement met 40 000, ils ont 10 % de votre maison qui leur appartient. C'est votre gestion, c'est vous qui le faites. Quand vous vendez la maison, si la maison est rendue à 1 million, mais 10 % d'un million...
Pas mal d'argent. Hein?
C'est pas mal d'argent. Mm. Le gouvernement fédéral récupère sa mise et plus. Donc, pour l'instant, c'est sans intérêt. C'est pas un prêt. Donc, c'est un investissement. Vous pourrez le racheter en tout temps. Si votre maison perd la valeur, il y a une baisse du marché immobilier, À ce moment-là, ça peut être avantageux de racheter avant la remontée des prix. On va voir les détails. C'est pas tout à fait clair. Le gouvernement, comme je le disais tantôt, veut se garder des munitions pour répondre plus tard et pour annoncer plus tard ces modalités-là.
Dernière question. C'est quoi l'histoire de l'assurance médicaments du gouvernement fédéral? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a des gens un petit peu moins bien nantis qui s'interrogent là-dessus, d'autres qui s'en inquiètent. C'est quoi le fond de l'histoire de cette affaire-là?
Le gouvernement met en place un plan pour avoir un plan. Il n'y a pas d'assurance médicaments qui va être mis en place par le gouvernement fédéral à brève échéance. Donc, on va mettre en place une espèce de comité de transition qui va mettre en place une agence pour les médicaments dont l'objectif est d'acheter en gros et donc de faire baisser le coût des médicaments. On est à une première étape. Ce n'est pas un régime d'assurance médicaments universel qui va faire que les médicaments sont gratuits pour tout le monde. On n'est pas rendu
content
là.
De l'entendre.
Mais c'est vers ça que le gouvernement veut s'en aller éventuellement. Et là, ben, c'est entre autres pour essayer de coincer le NPD qui, lui, va faire de cette promesse-là, une assurance médicaments universelle, un élément clé de sa plateforme électorale. Donc, on dit, on ne peut pas aller aussi vite que le NPD voudrait parce que ça ne serait pas responsable, mais on prend des pas dans cette direction-là. Et donc, ça va prendre un certain temps, peut-être éternellement, avant qu'on se rende là.
Carl, merci beaucoup des explications. Très clair, merci. Puis c'est toujours un plaisir de te recevoir en studio.
Plaisir partagé.